Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 3, définition du mouvement, théorie de l'infini. Chapitre 1er, sommaire. De la théorie du mouvement, importance de cette idée. Division et catégorie de l'être, acte ou entéléchie et puissance. Le mouvement n'est point en dehors des choses. Il y a autant de genres du mouvement qu'il y a de genres de l'être. Définition du mouvement. Démonstration de l'exactitude de cette définition. Examen des opinions des autres philosophes. Difficulté de bien définir le mouvement. Paragraphe 1. La nature étant le principe du mouvement et du changement, et notre étude actuelle s'appliquant à la nature, il faut nous rendre bien compte de ce que c'est que le mouvement. Car ignorer ce qu'il est, ce ne serait pas moins qu'ignorer la nature entière. Puis, une fois que nous aurons expliqué le mouvement, il faudra tâcher d'aborder de la même manière les phénomènes qui l'accompagnent. Le mouvement peut être rangé, à ce qu'il semble, parmi les quantités continues. Et le premier caractère du continu, c'est d'être infini. Aussi, en définissant le continu, fait-on fréquemment usage de la notion de l'infini, comme si le continu n'était que ce qui est divisible à l'infini. En outre, il n'y a point de mouvement possible sans espace, sans vide et sans temps. Donc, évidemment, par ces motifs, et aussi parce que l'espace, le vide, le temps et le mouvement sont communs à tout et sont universels, nous devons étudier préalablement chacun d'eux séparément, car l'étude des propriétés spéciales des choses ne doit venir qu'après l'étude de leurs propriétés communes. Commençons donc, ainsi que nous venons de le dire, par le mouvement. Paragraphe 2. Rappelons d'abord que l'être est tantôt seulement en entéléchie, en réalité, et tantôt tout ensemble, en puissance et en entéléchie. Tantôt encore il est substance, tantôt quantité, tantôt qualité, et ainsi de suite pour toutes les autres catégories de l'être. Paragraphe 3. Quant au relatif, il est exprimé tantôt par l'excès ou par le défaut qui le désigne, tantôt il est passif et actif, et d'une manière générale, il est moteur mobile, car le moteur est ce qui meut le mobile, et le mobile est mu par le moteur. Paragraphe 4. Mais il n'existe point de mouvement en dehors des choses. Car l'être qui change doit toujours changer, soit dans sa substance, soit dans sa quantité, soit dans sa qualité, soit de lieu. Or, il n'y a rien de commun entre tous ces termes, nous le répétons, qui ne soit pas aussi ou quantité ou qualité ou quelqu'une des autres catégories. Par conséquent, il ne peut y avoir ni mouvement, ni changement, pour quoi que ce soit qui ne serait point les catégories qui viennent d'être énumérées, puisqu'il n'existe pas d'autre être que cela. Paragraphe 5. Mais chacune de ces catégories peut être à toute chose de deux façons. Par exemple, dans la substance, il y a la forme et la privation. Dans la qualité, l'être est blanc et il est noir. Dans la quantité, il est complet et incomplet. Et de même, dans la translation, il va en haut et il va en bas, c'est-à-dire qu'il est léger et qu'il est pesant. Paragraphe 6. Par conséquent, il y a autant de genres de mouvement et de changement qu'il y a de genres de l'être. Paragraphe 7. Et comme dans chaque genre, on peut distinguer l'être en acte ou en téléchie et l'être en puissance. L'acte ou en téléchie, c'est-à-dire la réalisation de l'être qui était en puissance, selon ce qu'est cet être, c'est le mouvement. Paragraphe 8. Ainsi, l'altération est le mouvement de l'être altéré en tant qu'altéré. Le développement et la réduction sont le mouvement de l'être qui se développe et de l'opposé, à savoir l'être qui se réduit. Car il n'y a pas ici d'expression commune pour ces deux idées. La génération et la destruction sont le mouvement de l'être qui est engendré et qui se détruit. De même que la translation est le mouvement de l'être transféré. 9. Ce qui prouve bien l'exactitude de cette définition du mouvement, c'est que par exemple, quand une chose est constructible en tant que nous ne la considérons qu'à cet égard, est en l'entéléchie et se réalise, elle est construite. Le mouvement, alors, est la construction. De même encore, pour l'acte d'apprendre, l'acte de guérir, l'acte de rouler, de sauter, l'acte d'arriver à l'âge mûr, à la vieillesse, etc. Paragraphe 10. D'autre part, les mêmes choses pouvant être en puissance et en acte, sans que ce soit d'ailleurs à la fois, ni relativement à une même chose, comme un objet chaud par exemple, en puissance, et froid en réalité, il y aura beaucoup de choses qui agiront ou souffriront les unes par les autres. Tout sera également actif et passif, de telle sorte que le moteur naturel sera mobile à son tour, parce que tout ce qui meut dans la nature a d'abord été mu lui-même. Paragraphe 11. C'est là ce qui fait que certains philosophes croient que tout moteur, sans exception, reçoit le mouvement. Nous nous réservons de démontrer ailleurs ce qu'il en est à cet égard et de prouver qu'il y a un moteur qui est lui-même immobile. Paragraphe 12. Mais pour nous, le mouvement est l'acte ou entéléchie de l'être en puissance, lorsque cet être agit actuellement en tant que mobile, soit en restant lui-même, soit en devenant autre. Et quand je dis « en tant que mobile », j'entends par exemple que les reins et la statue en puissance, bien que l'acte ou entéléchie de les reins en tant qu'airain, ne soit pas le mouvement, car ce n'est pas essentiellement la même chose d'être de l'airain et d'être mobile en puissance, puisque si c'était absolument et rationnellement identique, l'acte ou entéléchie de l'airain en tant qu'airain serait le mouvement. Mais encore une fois, ce n'est pas la même chose, et l'on peut s'en convaincre en regardant au contraire. Ainsi, c'est chose fort différente de pouvoir se bien porter et de pouvoir être malade, puisque s'il en était autrement, être malade et se bien porter se confondraient. C'est le sujet qui est le même et qui reste un, soit en santé, soit en maladie, par l'effet de l'humeur ou du sang. Mais comme le sujet et sa puissance ne sont pas la même chose, pas plus que la couleur ne se confond avec le visible, il faut évidemment en conclure que le mouvement est l'acte, l'entéléchie du possible en tant que possible. Paragraphe 13. Il est donc bien certain que c'est là ce qu'est le mouvement, qu'une chose n'est en mouvement qu'au moment où cette entéléchie a lieu, et qu'il n'y a de mouvement ni après ni auparavant, car toute chose peut tantôt être en acte et tantôt n'y être pas. Et c'est par exemple une chose qui peut être construite en tant qu'elle est constructible. Paragraphe 14. L'acte de la chose constructible en tant que chose, c'est la construction. Car il n'y a ici que la construction, c'est-à-dire l'acte de la chose qui peut être construite ou bien la maison. Mais une fois qu'il y a la maison, la chose constructible n'est plus, parce que la chose constructible est construite. Donc, nécessairement, la construction est bien l'acte. Ainsi, la construction est un mouvement d'une certaine espèce. Et la même définition pourra également convenir aux autres espèces de mouvement. Paragraphe 15. Il suffit, pour prouver la vérité de cette définition, de voir ce que les autres philosophes ont dit du mouvement, et aussi la difficulté de le définir autrement qu'on ne le fait ici. En effet, il serait bien impossible de classer le mouvement et le changement entre genres, et l'on risque de se tromper quand on le considère d'une façon différente de celle-ci. Paragraphe 16. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder ce que devient le mouvement dans ces théories qui en font ou une diversité, ou une inégalité, ou même le non-être. Mais il n'y a pas de mouvement nécessaire, ni pour ce qui est divers, ni pour ce qui est inégal, ni pour ce qui n'existe point. Paragraphe 17. Le changement n'aboutit pas plus à ces termes qu'il ne vient d'eux ou de leurs opposés. Paragraphe 18. Ce qui fait que les philosophes dont nous parlons ont à ces termes, c'est qu'ils ont supposé que le mouvement est quelque chose d'indéfini et que les principes de leur autre série correspondante sont indéfinis. Par cela même qu'ils sont privatifs. Car aucun d'eux n'est ni substance, ni qualité, ni aucune des catégories. Paragraphe 19. Ce qui fait encore que le mouvement semble indéfini, c'est qu'il est impossible de le placer d'une manière absolue, soit dans la puissance, soit dans l'acte des êtres, et, par exemple, ni ce que peut citer, ni ce qui actuellement en est une, n'est nécessairement en mouvement. Le mouvement paraît bien une sorte d'acte, mais d'acte incomplet. Et cela tient à ce que le possible, dont le mouvement est l'acte, est incomplet lui-même. Paragraphe 20. Ceci montre donc qu'il y a grand peine à savoir ce qu'est au juste le mouvement, car il faut de toute nécessité le classer ou dans la privation, ou dans la puissance, ou dans l'acte absolu. Et en même temps, aucune de ces hypothèses ne semble satisfaisante. Reste donc à le concevoir ainsi que nous l'avons fait, comme un acte d'un certain ordre, mais cet acte même, tel que nous l'avons expliqué, est difficile à bien comprendre, quoique ce ne soit pas impossible. Chapitre 2. Sommaire. Suite de la définition du mouvement. Rapport du moteur et du mobile. Nécessité du contact. le mouvement dans le mobile et en puissance dans le moteur. Objection contre cette théorie. Réponse à l'objection. Paragraphe 1. Ainsi qu'on l'a dit, tout moteur est mu lui-même, parce qu'il est mobile en puissance et que son immobilité est le repos, car le repos est l'immobilité de ce qui par nature possède le mouvement. Agir sur le mobile en tant que mobile, c'est précisément là ce que c'est que mouvoir. Mais le moteur ne peut faire cela que par contact, de sorte qu'il est passif en même temps qu'il agit. Aussi, le mouvement est-il l'entéléchi, l'acte du mobile en tant que mobile. Et pour que ce phénomène ait lieu, il faut, je le répète, le contact du moteur qui souffre alors en même temps qu'il agit. Paragraphe 2. Mais toujours le moteur apportera quelque forme à l'être qu'il meut, soit en substance, soit en qualité, soit en quantité, laquelle forme sera le principe et la cause du mouvement quand le moteur le donne. Par exemple, l'homme en entéléchie fait un homme réel de l'homme qui n'est qu'en puissance. Paragraphe 3. Il est dès lors évident, et sans qu'il puisse subsister de doute, que le mouvement est dans le mobile dont il est en effet l'entéléchie, et que le mouvement vient de ce qui peut le donner. Paragraphe 4. Or, l'acte de ce qui peut mouvoir ne doit point être autre que celui du mobile, puisqu'il faut que l'un et l'autre aient leur entéléchie. Le moteur en puissance est, par cela seul qu'il peut mouvoir. Le moteur réel est, parce qu'il agit et meut. Il est l'agent du mobile, et par conséquent, il n'y a qu'un seul acte pour le moteur et le mobile également. C'est ainsi qu'il n'y a qu'un seul et même intervalle de 1 à 2, de 2 à 1, soit que l'on monte, soit que l'on descende. Car les deux choses n'en font qu'une, bien que d'ailleurs la définition ne soit point unique. Il en est absolument de même aussi pour le moteur et pour le mobile qu'il meut. Paragraphe 5. Mais ici se présente une objection purement logique, et la voici. Il y a peut-être nécessité que l'acte soit un peu différent pour ce qui est actif et pour ce qui est passif. D'un côté, c'est l'activité, d'autre part, c'est la passivité. L'œuvre et la fin de l'un, c'est un résultat produit. L'œuvre et la fin de l'autre, c'est un simple état passif. Paragraphe 6. Mais puisque l'on fait de toutes les deux des mouvements, on demande, en supposant qu'elles sont autres, dans quoi elles se trouvent. Ou toutes les deux sont dans ce qui souffre l'action et qui est mu, ou bien l'action se trouve dans ce qui agit, et la souffrance se trouve dans ce qui subit l'action. Mais si l'on donne également le nom d'action à cette passivité, c'est une pure équivoque de mots. Et si l'action est dans l'agent et la passivité dans le patient, il s'ensuivra que le mouvement est dans le moteur, puisqu'on applique le même rapport de l'action et de la passion au moteur et au mobile qu'il meut. Par conséquent, on conclura que tout ce qui meut est mu à son tour, ou bien que ce qui a le mouvement ne sera pas mu. Que si l'on prétend que l'action et la passion sont toutes les deux dans le mobile et le patient, de même que l'enseignement et l'étude sont cependant réunis dans celui qui étudie, bien que ce soit deux choses distinctes, il en résultera d'abord que l'acte d'un être quelconque n'est plus dans cet être. Ensuite, il en résultera cette autre conséquence non moins absurde, qu'une chose peut avoir deux mouvements en même temps. En effet, quelles peuvent être deux altérations diverses d'un seul et même être tendant vers une seule et même forme? Évidemment, c'est impossible. Paragraphe 7. Dira-t-on qu'il n'y a qu'un seul et même acte pour l'agent et le patient? Mais il est contre toute raison de soutenir que deux choses différentes en espèce puissent avoir un seul et même acte. Paragraphe 8. En outre, si l'on confond et si l'on identifie l'enseignement et l'étude, l'action et la passion, il faudra aussi qu'enseigner et étudier soient la même chose, que souffrir et agir soient tout un, et l'on arrivera nécessairement à cette conséquence que celui qui enseigne étudie toujours et que celui qui agit est aussi celui qui souffre. Paragraphe 9. Mais ne peut-on pas dire qu'il n'est pas absurde de soutenir que l'acte d'une chose puisse être dans une autre chose? L'enseignement, en effet, est l'acte de celui qui peut enseigner. Mais cet acte, qui est dans un certain être, n'y est pas séparé et isolé complètement. Il y est l'acte de cet être dans tel autre être. Ne peut-on pas dire encore que rien n'empêche que le même acte appartienne à deux choses? Non pas parce que cet acte serait essentiellement identique, comme le sont un habit et un vêtement, mais parce qu'il sera à ces choses dans ce rapport où ce qui est en puissance est à ce qui est en acte. Paragraphe 10. Ce n'est pas davantage une conséquence nécessaire que celui qui enseigne étudie en même temps. Et en supposant même qu'agir et souffrir se confondent. Ce n'est pas cependant comme se confondent les choses dont la définition essentielle est identiquement la même. Par exemple, celle de l'habit et celle du vêtement. Mais c'est seulement comme le chemin est le même de Thèbes à Athènes ou d'Athènes à Thèbes, ainsi que je viens de le dire un peu plus haut. C'est qu'en effet, les choses identiques ne sont pas identiques tout entières aux choses qui sont les mêmes qu'elles d'une façon quelconque, mais seulement à celles qui ont la même essence. Paragraphe 11. Mais même en admettant que l'enseignement à autrui soit la même chose que l'étude personnelle, il ne s'ensuivrait pas que étudier se confonde avec enseigner, de même que la distance restant toujours une et la même entre deux points distants, on ne peut pas dire que ce soit une seule et même chose d'aller de celui-ci à celui-là et de celui-là à celui-ci. Paragraphe 12. Pour nous résumer en quelques mots, nous dirons qu'à proprement parler, ni l'enseignement et l'étude, ni l'action et la passion ne sont une même chose. La seule chose identique ici, c'est le mouvement auquel ces diverses propriétés se rapportent. Car l'acte de telle chose agissant sur telle chose et l'acte de telle chose souffrant par telle chose, ce sont là des idées rationnelles.